En ce 29 mai, je compte vous parler de Johannes Jørgensen, un écrivain danois qui s'est converti. Il était mort en 1956, qui était un excellent écrivain danois, et qui a écrit une magnifique vie de Saint François d'Assise, paru chez Talendier, pour remercier Dieu de l'avoir visité en somme. Par ailleurs, c'est la fête aujourd'hui, on peut le mentionner rapidement, Saint Maximin de Trèves, évêque. Il y a un Saint Alexandre, martyr aussi en 397, et plusieurs autres saints au nom plus ou moins curieux, mais il y a quand même un Saint Guillaume Arnaud, et puis qui a été martyrisé, bien qu'il était inquisiteur dominicain. Mais vous savez qu'il y a des inquisiteurs qui étaient des hommes très honnêtes et défenseurs de la personne accusée. Hein? Et Sainte Géraldine de Pise, une veuve recluse. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Voici donc Johannes Jørgensen. Johannes, c'est J-O, puis Hannes, H-A-2-N-E-S, d'un seul nom, ça veut dire Jean, évidemment, comme chacun le sait. Et Jørgensen, c'est J-O-E-R, G-E-N-S-E-N, fils de Georges, quoi. Le 6 septembre 1947, quelques années avant sa mort, un groupe de pèlerins français était conduit par des pères capucins, s'était réuni dans le salon de l'évêché d'Assise. En Italie, sous la présidence de l'évêque, pour y célébrer avec quelques mois de retard, mais peu importe, les 80 ans d'un des plus grands écrivains catholiques du XXe siècle, le Danois Johannes Jørgensen. On a fait alors la lecture d'un télégramme du pape Pie XII. Et cette cérémonie, qui était bien intime, a revêtu un symbolisme, on pourrait dire, émouvant. Puisque ça s'est déroulé au palais épiscopal d'Assise, aucun autre lieu ne pouvait mieux mettre en lumière la profonde signification de cette fête, les 80 ans de cet écrivain grand converti, car c'est sur la place voisine que Saint François, si vous vous souvenez, avait fait ce geste décisif de ce que l'on a appelé sa conversion. C'est dans cette scène, tout à fait dramatique, où il avait renoncé à son père, Pierre de Bernardone, pour ne plus dire que notre Père qui es aux cieux, et en rejetant ses beaux vêtements sous les yeux de ses compatriotes qui étaient stupéfaits. Et c'est ainsi que François d'Assise a rompu brutalement avec une jeunesse assez facile, dorée, riche, n'est-ce pas, dont il était le meneur. C'était un petit meneur de gang, mais pas de gang au mauvais sens, là. Et c'est tout près de là aussi, à Sainte-Marie de la Portioncule, vous tous qui êtes allés à Assise, j'espère que vous êtes tous allés à Assise, c'est tellement beau. Et à Sainte-Marie de la Portioncule, que le jeune Danois, de 28 ans, disciple par son compatriote Georges Brandes, disciple de Taine et de Renan. Taine et Renan, n'est-ce pas, c'était de grands militants contre l'Église catholique. Des membres d'une école dite radicale, où l'on attendait, disait-on, la fin du christianisme et enfin la résurrection de la chair païenne et du plaisir de l'amour. Alors il a osé esquisser ce jeune Danois de 28 ans, le 2 août 1894, une petite génuflexion bien bien rapide devant l'autel de l'humble chapelle restaurée par Saint François, et c'est curieux que cette petite génuflexion, cette espèce de geste dans son corps où il reconnaissait le monde invisible auquel appartenait François d'Assise, que s'est déclenché en lui quelque chose. Et son adhésion définitive au catholicisme n'a eu lieu que quelques mois plus tard, mais déjà, il y avait là chez lui une paix tout à fait particulière qui l'avait remplie. Et le soir même, il écrivait dans son journal. Et c'est très beau ce qu'il écrit. Depuis bien des années, je ne me suis plus senti heureux comme en ce jour. Seigneur, Seigneur, je te remercie et je te loue de tout mon pauvre cœur. Jonas Jørgensen, ou si on préfère Jean, fils de Georges, n'est-ce pas, comme je vous disais tout à l'heure, né en 1866 à Svendborg, dans l'île de Fieni, est entré en seconde, à l'âge de 16 ans, au lycée de Copenhague. Et nous savons, par ses propres déclarations, ses propres confessions, qu'il apportait là un bagage moral étrange. Il appartenait à une famille de loups de mer, donc des marins, qui était luthérienne, qui pratiquait sa religion, mais ne jugeait pas convenable d'en parler. On gardait le silence. Cette espèce de discrétion un peu nordique, le Danemark est un des pays nordiques, mais sur le continent. Mais à l'école, il a appris les cantiques de Noël, ça lui a laissé, il le note avec insistance dans son autobiographie, une forte impression de son enfance. Ce qu'on y enseignait, ça lui suffisait plus. Et puis, il est parti donc tout jeune, sans maître, au fond, au gré de ses lectures. Il cherchait la vérité, la seule chose dont il se souciait, disait-il, c'était la vérité. Mais laquelle? Alors, il prend tout d'abord, sans s'inquiéter de la foi luthérienne bien orthodoxe, il prend la voie de la théosophie. Qu'est-ce que c'est que la théosophie, n'est-ce pas? La plupart d'entre vous, j'espère, savent que c'est en principe une doctrine mystique, quoi. Je dirais que ça a pour objet la connaissance directe là, de Dieu. Puis l'union de son esprit, de son âme avec Dieu. Mais cette doctrine associe de nos jours beaucoup d'occultisme, puis des traditions indiennes et tout ça. Je me souviens qu'il y avait un centre de théosophie au coin de Guy et Sherbrooke pendant un bon bout de temps. Et en 1881, il a préparé son premier livre dont la table des matières commençait ainsi, « Origine de la matière et du mal ». Ça se terminait par « Le purgatoire et le shéol », ou « L'état après la mort ». Il se sentait un révolté. Il y avait les Russes qui étaient ce qu'on appelait les nihilistes, ceux qui prêchaient l'absence de toute signification. Rien n'avait de sens. Évidemment, il me semble, moi, si j'étais athée, je trouverais que rien n'a de sens. Si tout est matière, pourquoi un dictateur n'aurait-il pas le droit de tuer 100 millions de personnes? Après tout, il tue personne, il tue rien que de la chimie, il n'y a personne, puisqu'il n'y a pas d'âme, tout est matière. Et si tout est matière, quelle différence y a-t-il entre une feuille et un être humain? Bon, peut-être que je suis un peu naïf de dire des choses comme ça. C'est bien moi que les athées ont du cœur. Combien d'athées ont plus de cœur que moi-même? Mon Dieu. J'en connais. Les athées qui sont pleins de tendresse, d'émotion, de mouvement, de dévouement. Mais comment se fait-il qu'ils ne se rendent pas compte que c'est leur âme et que cette âme est créée par Dieu et que Dieu existe? Étrange, étrange. Alors donc, il y avait les nihilistes russes qui faisaient à ses yeux figure de héros. Hein. Il a fondé même un club pour lutter contre la tyrannie. Et la police danoise n'en a pas conçu quelque inquiétude que ce soit, parce qu'il était bien jeune. Le club s'appelait Lucifer. Ça comptait que 6 membres, dont 4 femmes. Puis l'écho qu'on avait de cette espèce de petite délibération d'adolescents qui était bien menaçante, ça franchissait pas les murs de la cave à charbon où ils tenaient ces réunions. Et je me souviens, dans les années 60, il y avait des réunions comme ça à Montréal. J'y suis déjà allé dans le temps où on vénérait les grands philosophes nihilistes du temps, Simone de Beauvoir. Un dernier trait, d'ailleurs, nous apporte une saveur assez âpre. C'est important de lire ça. Il dit, une après-midi grise de janvier, dans une pièce où il faisait froid, une détresse désespérée envahit le jeune garçon. La seule conscience qu'il avait d'exister causait en lui cette angoisse. L'idée qu'il était et qu'il n'y avait pas d'autre existence que celle-là le frappait. C'était tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas d'autre monde, comme il n'y avait pas d'autre Dieu que lui-même. Au-dessus de lui, en dehors de lui, il n'était rien, ni personne. Il n'y avait que le néant vide, froid, sans fond. Sous le poids de cette pensée, le jeune garçon demeura à regarder le crépuscule gris, ne pouvant se délivrer d'une douleur pesante, indicible. C'est tragique, l'athéisme. Alors à Copenhague, qui est la capitale du Danemark évidemment, où il arrive à la fin de l'été 1882, Johannes Jørgensen ne tarde pas à découvrir un héros. C'est la romancière suédoise, c'est le romancier suédois plutôt, August Strindberg, le fameux Strindberg. Un évangile, le livre au bruyant scandale que fut la Chambre Rouge. Il trouve un maître, George Brandes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se targue de dissiper à tout jamais les ténèbres du christianisme, en étant dans un beau milieu. On trouve ça à Montréal aujourd'hui encore, il y a des gens, mais c'est pas les mêmes noms, ni les mêmes personnes. Ses sympathies révolutionnaires l'emportent sur sa théosophie, à laquelle il adhère. Ses ouvrages de chevet ne sont plus bientôt que ceux qui enseignent la révolte et le désespoir. Le ciel, pour lui, devient vide. Il a conté, lui-même, il a raconté sa vie d'étudiant pauvre. Trois fois par semaine, il va prendre un repas gratuit chez des gens bien pensants, où il entend attaquer sans pouvoir dire un mot tout ce qu'il respecte et tout ce qu'il admire. Mais à la suite d'une esclandre un peu trop bruyant, il est chassé. Et puis, il entend, sans un geste de repentir, sans une larme, les paroles désespérées de sa mère. Il lui dit, « Tu étais pourtant notre honneur et notre fierté. Nous te croyons assez sage pour ne jamais t'engager dans quelque chose qui ne soit pas bien. Et à présent, tout est fini. De ma vie, je n'aurai plus un jour de bonheur. » Alors, il est devenu anarchiste. Il ne rêve de rien moins que d'abolir toute société. Il est athée. Jørgensen rejette la loi morale, qui n'est guère qu'une habitude, dit-il. Il ne voit pas pourquoi il serait obligé de travailler. Il connaît la misère, la faim, le froid, les habits râpés, les déménagements successifs, les chambres où il n'y a pas de lit, où il faut dormir sur une chaise longue. Il doit vendre ses livres, et un soir, au moins, il réussit à se glisser à l'hôpital pour y trouver à souper. Il écrit en 1899, « J'ai le sentiment d'être une chauve-souris qui aurait été attirée par le soleil. J'ai rompu avec le jour et j'ai été trompé par la nuit. » C'est dit d'une façon très poétique et très littéraire, mais je le relis parce que c'est très beau. « J'ai le sentiment d'être une chauve-souris qui aurait été attirée par le soleil. J'ai rompu avec le jour et j'ai été trompé par la nuit. » C'est le cas de nos pauvres jeunes punks, là, que l'on voit dans la rue. C'est le cas de tant de gens déchus. C'est le cas de tant de gens, mon Dieu. Quand j'ai adopté mon fils, il était en bonne partie comme ça. Il couchait dans la montagne, dans les ruelles. Il avait 18 ans, il n'avait rien, il savait rien, il savait ni lire, ni écrire, ou à peine. Que voulez-vous qu'il fasse? Ils n'ont aucune espérance. Alors, devenu collaborateur, puis secrétaire de la rédaction d'un grand journal danois, où l'on a commencé par lui demander d'écrire un bon article sur les plantes fourragères, un article qui épuise, disait-on, le sujet, ben Johannes Jørgensen réussit à échapper pendant 2 ans environ à la misère matérielle. Bon, il est journaliste à la petite semaine, quoi. Il se marie. Il retrouve le bonheur. Bon, un bonheur construit sur des bases évidemment purement humaines. Le Christ n'est pas présent dans sa vie. Alors, ça ne dure pas. Il reconnaît formellement que c'est de sa faute, par sa seule faute. Et dans un autre domaine, il se juge encore avec moins d'indulgence. Il écrit « Nul ne devient athée qui ne l'ait mérité. Chacun a la foi qu'il mérite d'avoir. Je deviens libre penseur non parce qu'on m'a prêché la libre pensée, mais parce que mon esprit y était porté. Je deviens amoraliste, amoraliste et sans morale, c'est-à-dire qui nie une morale qui pourrait s'imposer à lui. Je deviens amoraliste et immoraliste, non parce qu'on m'incitait à l'être, mais parce que ma qualité morale n'était pas plus élevée. Je n'étais pas bon. J'étais un être composé d'imagination, de sentimentalité et de sensualité. Par suite, j'étais destiné à être moralement libéré. Comme tous les caractères faibles, je souhaitais une vie libre, sans responsabilité. Toujours cette pseudo-liberté qui finalement enchaîne. Cette liberté qui écrase. Cette liberté qui diminue tout l'être. Alors que la vraie liberté, où est-elle? Elle est dans la volonté de vouloir vraiment, là, ce que tu veux de nous. Est-ce que l'on sait être le meilleur? Alors, il y a de nouvelles voix qui se font entendre au Danemark, qui annoncent le déclin du naturalisme. La fin de ce que l'on appelait l'époque juive. Et c'est comme ce qu'on disait à l'époque. Et du règne de Georges Brandes, le triomphe des valeurs spirituelles. On annonce le triomphe des valeurs spirituelles, alors Johannes Jørgensen lit Huysmans. Joris Karl Huysmans est un auteur catholique, converti d'ailleurs, dont je vous parlerai un jour. Il lit Barbet de Révillé aussi, qui était chrétien, Villiers de l'Isle-Adam, Maeterlinck. Et un jour, il trouve un de ses plus chers amis qui récite un sonnet de Baudelaire et qu'il scandait du bout de sa pipe et la lecture des fleurs du mal de Baudelaire. On lisait ça au collège. Dès 1943, nous apprenions des poèmes de Baudelaire et on les lisait. Il y avait des choses assez audacieuses, mais les jésuites acceptaient ça comme une forme d'enseignement. Et puis, c'était vraiment très bien fait dès 1943 à Brébeuf, en tous les cas. Dans l'autre collège, c'était pas permis de lire les fleurs du mal de Baudelaire. Alors, la lecture des fleurs du mal lui inspire un article dont un des meilleurs connaisseurs de la littérature danoise, Jacques de Coussange, a dit qu'il a fait une profonde impression et qu'il a révélé à plusieurs écrivains un monde de sentiments absolument nouveaux pour eux. Alors, avec le poète français, bien, Jørgensen découvre en lui-même la lutte entre deux âmes, cette espèce de dualité qui nous habite tous. L'une cramponnée au plaisir, sous ses formes les plus basses, ça nous hante toujours, ça c'est terrible, il paraît que ça s'arrête à la mort. Et l'autre qui tend à s'élever vers de hautes régions. Oui, les hautes régions et la lumière, oui Dieu. Et le sens du mystère commence à se révéler, à se réveiller en lui. Alors l'influence d'Ernest Hello, un autre dont je voudrais un jour vous parler, sera encore plus forte et dans le roman en grande partie autobiographique traduit en français sous le titre Vita Vera, le héros de Ernest Hello, Hermann Runge, nous montre comment les analyses psychologiques du penseur breton lui vont droit au cœur. Ça va au cœur de Johannes Jørgensen. Ernest Hello écrit: quand un jeune homme a fait sur sa route beaucoup de bêtises et qu'il a perdu beaucoup de temps, qu'il a des dettes, qu'il est sot, médiocre, inutile et ennuyé, on dit qu'il a beaucoup vécu. C'est vrai. Il faudrait dire qu'il est beaucoup mort, dit Ernest Hello. Pas bête, hein? Il faudrait dire qu'il est beaucoup mort. Ce qu'il a fait, c'est le rien. Il n'a rien fait. Il a laissé fermenter le rien. Le néant a produit le néant. L'ennui est venu et voilà tout. le néant est une racine qui produit l'ennui, qui produit l'ennui pour fleur et pour fruit le désespoir. Alors c'est à cette époque que Jorgensen fonde La Tour, une revue de littérature et d'art, dont personne ne s'étonne que la durée soit éphémère. Hein? Le marchand de papier lui-même n'y est pas payé. Le programme annonce d'ailleurs une rupture brutale avec George Brandes et son école. Voici le texte. L'espoir d'en haut est fermé pour l'homme moderne. Il n'y a pas de vie hors de celle-ci, et d'après la philosophie orthodoxe, il ne doit pas y en avoir d'autre. L'homme est ainsi enfermé dans un monde matériel et éphémère, et quand vient la mort, tout est fini. Il s'ensuit qu'on a le sentiment d'une vie de plus en plus étroite, vulgaire, quelconque, avec laquelle on agit selon la fantaisie et le caprice. On oublie que la vie est un miracle, une énigme, une chose sacrée, et qu'il faut vivre avec piété. Mais certaines âmes éprouvent encore le besoin d'infini, de félicité, de vie dans un monde profond et plein de sens, et c'est à ces âmes-là que nous nous adressons. C'était une revue pleine de bon sens. Alors les radicaux danois ne s'y trompent pas, cela sent-elle chrétien. Il devait dire ça pue le chrétien probablement. Alors ces radicaux danois coupent complètement les vivres à ce renégat de Jorgensen, qui leur a donné de si belles espérances autrefois. Alors il le traite de brutal ambitieux qui voulait arriver à tout prix. Mais il ne devine pas que ce à quoi Jorgensen peut arriver, ce n'est ni à la gloire, ni aux honneurs, ni à la fortune, c'est seulement la connaissance de cette vérité que, jusque-là, il a cherché en vain parmi eux. Sa ruine totale devait l'y conduire par une voie inattendu. Alors, le rôle principal dans la conversion de Johannes Jorgensen a été joué par qui? Par Mogens Ballin, un converti lui-même. C'est un converti, ça, de Verkade. Verkade, je vous en ai parlé le 19 juillet. Oh, qu'on avait aimé cette émission le 19 juillet dernier, 1995, la conversion de Verkade, qui est devenu bénédictin. Qui va prendre l'habit de Saint-Benoît, en effet, me semble c'est à l'abbaye de Beuron, Beuron, en Allemagne. Et Verkade lui-même était un converti comme Ballin. Une contagion de conversion. Donc, le Mogens Ballin était un juif danois de famille riche, qui était parti pour Paris avec l'intention de devenir un artiste et qui a mené une vie fort joyeuse. Il avait rencontré Verkade. D'abord chez le peintre Gauguin, puis au bal Bullier, qui était célèbre à cette époque, puis d'une célébrité plutôt de fort mauvais aloi. Alors ils se sont trouvés d'accord sur ce point que, de tous les plaisirs frelatés, ils en avaient soupé. Fini les clubs de nuit, la danse et les folies. Ils se rendaient compte qu'ils s'ennuyaient effroyablement dans ces endroits-là. C'est au printemps 1894 que les deux amis devenus catholiques ont connu l'effroyable détresse à la fois matérielle et morale où se débattait Jorgensen, et que la charité chrétienne leur inspira de venir à son secours en l'arrachant à son milieu, puis en l'aidant même par des moyens financiers. C'est Verkade qui a écrit « Johannes Jorgensen n'était pas heureux. Il aspirait au bonheur, mais il était arrivé à la conviction que la vérité ne peut jamais rendre malheureux, tandis que la tristesse et le mécontentement sont le critérium manifeste d'une erreur de l'intelligence. » Alors, il y avait donc lieu de se demander si Ballin et Verkade, parce qu'ils étaient heureux, ne possédaient pas, à vrai dire, la vérité. Hein? Alors, les deux amis organisent une loterie de tableaux, dont le produit doit permettre à Jorgensen de faire un voyage en Allemagne et en Italie. Ils sont généreux. Ils veulent avoir Jorgensen pour le libérer, pour le rendre heureux. Alors, dans quelle disposition est-ce qu'il s'engage sur cette route du sud de l'Italie, qui ne doit reprendre vers le Danemark qu'après que l'issue de son combat intérieur soit vraiment décidée, mais où, avant de triompher de lui-même, il va subir de toutes sortes d'assauts, notre Jorgensen. Il a marqué lui-même quelles ont été les étapes de ce chemin tortueux, quels obstacles il a eu à surmonter. Jorgensen n'a dissimulé ni aucune de ses faiblesses, ni aucune de ses révoltes. Il a écrit à un moment donné « Prends le livre de mes confessions ». C'est une parole de Saint-Augustin, ça. Les confessions de Saint-Augustin, c'est à lire. Pas facile, mais c'est très intéressant. Alors, il écrit « Prends le livre de mes confessions, c'est là-dessus qu'il faut me juger pour ne pas me donner des louanges que je ne mérite pas. » Et en somme, il savait que c'est grâce à Saint-Augustin qu'il y est venu vraiment la foi. À la vérité, il n'a pas été besoin de nous citer tout le texte de Saint-Augustin. On songe tout naturellement à ce chef-d'œuvre immortel de la littérature chrétienne et on voit bien qu'il l'a lu. Il reçoit une lettre de Vercade à un moment donné qui lui donne rendez-vous au couvent bénédictin, le grand monastère bénédictin de Beuron, en Allemagne. Voici ce qu'il écrit. « Cette lettre ne fit pas revivre mes sympathies catholiques. Elle produisit l'effet contraire. Un panthéisme mystique, un panthéisme, il croit que tout est Dieu. Un panthéisme mystique me saisit, bouillonnant et enivrant, et à présent que la porte du vaste monde s'ouvrait pour moi, et que j'allais parcourir le chemin qui mène au sud vers l'Italie, je reculais. J'éprouvais une sorte d'angoisse, comme s'il y avait quelque chose de mal dans ce projet, quelque chose qui se vengerait. Mais le contraire ne se vengerait-il pas davantage encore? Alors ce sentiment a tracé le chemin à un autre nettement chrétien. J'ai commencé à comprendre ce que veut dire avoir besoin de la grâce, car personne ne peut vivre sans péché, personne n'a la force d'imiter le Christ. Et écoutez bien ça, il écrit « Toute notre conduite a besoin d'être pardonnée, de recevoir la grâce ». C'est ça que les athées ne peuvent pas avoir. Ils peuvent pas être pardonnés, puis ils peuvent pas recevoir la grâce, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour leur pardonner, puis leur donner cette grâce. Quelle tristesse, hein? Et il ajoute, mais pour l'obtenir, il faut que l'homme reconnaisse son continuel état de péché. C'est-à-dire, cet état qui nous fait refuser l'amour de Dieu, et qui nous fait pécher contre cet amour, et qui nous fait nous aimer nous-mêmes plutôt que d'aimer les autres et Dieu, de s'aimer soi-même maladroitement, égoïstement. Il ajoute, avec la conscience du péché, on aperçoit aussi l'espérance du pardon et d'une nouvelle vie. Je suis envahi par ce double sentiment, celui de ma propre ignominie et de ma propre laideur, et celui de mon aspiration aux grandes puissances de la vie. Cependant, si je me rapprochais du christianisme, je ne me rapprocherais pas de Rome, dit-il. La peur de l'Église catholique. Alors, il va commencer à s'en rapprocher malgré lui, d'une manière encore bien timide et bien hésitante, à Nuremberg, toujours en Allemagne, qui est la première étape de son voyage, après avoir quitté à Berlin son ami Mogens, le converti, et Balin, n'est-ce pas, l'autre converti. Et puis, il part directement pour Assise. Alors, les vieux maîtres allemands du Moyen-Âge le jettent dans de pieuses rêveries. Les impressions qu'ils tirent de leur étude ont un caractère plus religieux qu'artistique. Et c'est ainsi que les sculptures de Saint-Laurent vont lui enseigner que l'esprit humain a toujours attendu un rédempteur et que la figure de la justice lui apprend que la justice ne peut naître que de la foi et de l'espérance en un Dieu juste. C'est une conclusion un peu inattendue, pourrait-on penser, mais qui nous apporte un curieux témoignage sur son état d'esprit. Nous verrons tout à l'heure ce qui va se passer à Assise, en Suisse, et jusqu'à la fin de sa vie.
Jorgensen assiste un jour à une messe basse, le matin, à Notre-Dame. Il compare l'attitude de tous les braves gens qu'il y a vus, qui commencent leur journée en consacrant à Dieu leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. Il compare ça à celle des habitants qui, à peine réveillés, se jettent dans un journal pour se repaître des ordures puis des crimes de la ville ou qui allument la radio pour écouter, je n'ose pas dire quel poste et quelle station privée où on parle de toutes ces histoires-là. Et dans le monastère bénédictin de Beuron, où Vercade, moine maintenant, lui avait donné rendez-vous, il a une révélation dont il est, au dire de son ami, tout épouvanté, c'est celle de la vie conventuelle, la vie des moines ensemble, où toutes les heures sont, dès avant l'aube, le matin très tôt jusqu'au coucher, elles sont marquées par la prière et où le silence n'est rompu qu'à de rares moments. C'est une révélation. Mais c'est la plus belle vie du monde. Moi, c'est la vie qui me plaît le plus. Que j'aimerais vivre cette vie. Alors l'impression reçue est d'une telle violence que Johannes Jørgensen doit avoir recours à une fuite précipitée. Il dit « Je ne sens pas le courage, dit-il à son ami Vercade, de passer encore une soirée ici. » Et il part, accablé de nouveau par la domination de ce panthéisme allemand qui l'habite. Il ne désire obéir qu'à la nature. On dirait aujourd'hui à Gaïa, n'est-ce pas? Il réclame sa part du bonheur humain, tout prêt à tomber encore dans des espèces de, d'enlacements enchanteurs là, des jeunes Allemandes, les filles du Rhin, comme on les appelle. R majuscule H-I-N, évidemment. Il lui faut, pour s'y arracher, ce qu'il a appelé lui-même une intervention supérieure qui le pousse, au milieu des ténèbres et des désirs sensuels, à lire, dans un livre qui lui a donné Vercade, les psaumes de David. Lire les psaumes. Lire aussi les hymnes, les prières et les invocations des litanies. Alors il écrit dans son journal. Ah, c'est très beau ce qu'il écrit, c'est fondamental aujourd'hui. Écoutez bien ça. La vie et le bonheur de l'homme ne se trouvent qu'en Dieu. En dehors de lui, tout est vide, malheur et laideur. Dans le sens que si la lumière de Dieu n'éclaire pas nos actions, nos amours, nos préoccupations, nos désirs, bien tout ça est vide. La vie et le bonheur de l'homme ne se trouvent qu'en Dieu. En dehors de lui, tout est vide, malheur et laideur. On comprend bien le sens. Hein? Ça ne veut pas dire que une bonne soupe, simplement, c'est pas bon. C'est pas ça que veut dire. Un amour sain et beau, un beau mariage, pas beau, c'est beau. Mais en dehors de Dieu, Quelques jours plus tard, il survient à Lucerne, en Suisse, sur le lac des Quatre Cantons, là, un événement qui est comme une réponse providentielle à sa fuite éperdue du cloître de Beuron. C'est un événement dont il dit ensuite qu'a été la première étincelle tombée sur lui. Une étincelle qui l'a secoué de son repos et longtemps a couvé en lui avant que la flamme tout à coup n'éclate. Le soir de la Saint-Jean, 24 juin, comme il flâne au bord de la Reuss, près, après un orage qui s'est déchaîné sur le mont Pilate, il est machinalement entré dans une église. Il écrit, un prêtre avait pris sur l'autel l'ostensoir d'or, l'avait soulevé et avait béni la foule agenouillée. Et moi aussi, je m'étais trouvé à genoux au milieu de cette foule, comme poussé à cela par une force irrésistible. Et dans le profond silence du recueillement et de la prière, j'avais senti qu'à cette minute, quelqu'un était près de moi. Et depuis cette soirée de Lucerne, le feu du Christ avait brûlé dans mon cœur. Mais mon cœur n'avait pas voulu se laisser consumer par ce feu. Mon cœur avait tâché à l'étouffer, à l'éteindre. Si c'était possible, car mon cœur craignait de s'abandonner à cette flamme que je savais venir de Dieu et qui voulait remonter vers Dieu, la flamme de l'amour dont l'objet est le bien suprême. Alors là, on peut dire que notre jeune païen, comme on dit, n'est pas ce panthéiste, il est appelé par le Saint-Sacrement à Lucerne, il capitule pas. Et Johannes Jorgensen se sent bien incapable de mettre en pratique ce discours de la sagesse éternelle à Henri Suzeau. Je vous ai fait une émission sur Henri Suzeau le 23 janvier. Henri Suzeau, S-U-S-O. S'il avait médité ce discours de la sagesse éternelle, c'est-à-dire de Dieu, il l'avait médité quelques jours plus tôt à Constance, en lisant les œuvres de ce mystique allemand Henri Suzeau. Voici le texte. « Commence d'abord par rompre avec ton goût pour les dérèglements de ta vie et les jouissances sensuelles de tes oreilles. Fais en sorte que tu prennes plaisir et amour à ce qui jusqu'alors te déplaisait. Renonce par attachement pour moi aux soucis délicats de ton corps. En moi seul... » C'est la sagesse éternelle qui parle. « En moi seul, cherche désormais tout ton repos. » Alors, dès son arrivée en Italie, il est accueilli à Gênes par son compatriote Sophus Clausen, un poète, un romancier avec qui il a fait ses premières armes en 1887 dans la littérature danoise. C'est un écrivain naturaliste, un sensualiste ardent. Les problèmes de la vie intérieure ne le trouvent absolument pas, ni les mystères de la religion. Il proclame sa foi en, dit-il, la sainteté de la corruption. C'est un quasi-blasphème. Puis il dit aussi que la morale est absurde. Alors, cet écrivain, Clausen, ne conçoit même pas que le surnaturel puisse exister. Alors, Jorgensen passe avec lui quelques jours à Rapallo, et comme il n'est pas d'humeur conciliante et que son esprit de contradiction et de révolte n'est pas mort, mais cette rencontre lui est très salutaire finalement, parce qu'il y a des discussions continuelles avec ce Clausen, et ça le remet dans la voie droite, là, par un détour inattendu. Même et peut-être surtout lorsqu'ils se jettent à la tête la clé unique de leur maison, tellement ils sont fâchés l'un contre l'autre. Alors, il se rend à Luc, puis à Pistoia, et Jorgensen fait une assez longue retraite, là. Et c'est là qu'il étudie la doctrine catholique. Il est dirigé par Vercade, son ami bénédictin, qui lui envoie des livres, et à qui il soumet ses objections et ses doutes. Et un soir, qu'il entend encore plus pressant l'appel du romantisme et du panthéisme, qui chante au clair de la lune, pourrait-on dire, pour l'attirer dans les bras pleins de douceur, comme il l'écrit. Mais il ouvre le Nouveau Testament, puis il y trouve trois mots qui lui éclairent toutes choses. D'abord, le mot de Marie-Madeleine au ressuscité, quand elle le reconnaît. Rabboni, maître. Il dit, j'éclatais en sanglots, comme elle avait dû le faire. Puis, c'est le mot de l'eunuque éthiopien à Philippe. « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et enfin, celui de Saint-Pierre. « Nous croyons que nous serons sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. » Alors jusque-là, il a tendu à se rapprocher directement de Dieu, mais maintenant, il a compris que la voie est Jésus et qu'il n'y en a pas d'autre. Ses lectures, ses méditations, son travail de pensée lui a fait atteindre la clé de voûte du dogme, écrit-il, la pierre angulaire de la révélation, ajoute-t-il. À ce moment-là se produit un incident qui pourrait ruiner d'un coup l'édifice qui est bien chancelant encore, mais qui, grâce à l'intervention providentielle de Mogens Ballin, ça le consolide définitivement. Jorgensen, lui, apprend qu'il ne lui reste plus que quelques centaines de francs dans sa bourse de voyage et qu'il lui faut reprendre sans tarder la route du nord de l'Europe. « Non, lui répond sitôt Ballin, vous ne devez pas retourner à la libre pensée danoise. Que ferez-vous là? Vous ferez naufrage et vous coulerez. Si Dieu a voulu que vous n'ayez plus d'argent, c'est afin que j'exerce vis-à-vis de vous les devoirs de l'hospitalité. Alors venez à Assise, demeurez chez moi, mangez à ma table, vivons comme des frères et restez chez moi autant que vous le désirez. Alors Jorgensen accepte l'invitation. La chronique ombrienne du Livre de la Route, traduit en plusieurs langues, a popularisé le récit de ce séjour de 3 mois de Jorgensen à Assise, 3 mois, où Mogens Ballens et un frère mineur, le père Felice, le mettent à l'école de Saint-François. Je cite, « Pendant ce temps, il se livra en moi un combat incessant, comme ceux qui se livrent entre deux fronts bien accrochés au terrain, entre l'aspiration nouvelle encore faible, mal équipée d'arguments, vers le bonheur, la lumière, le paradis, et le besoin si ancien, si invétéré de faire ce qui était facile, et de me laisser glisser, de me laisser couler. » Dans toutes les objections qu'il a déjà écarté contre le catholicisme, lui revient à l'esprit avec plus de vigueur qu'autrefois. Et un jour, qu'il en a découvert à Montefalco une nouvelle objection, qui est absurde, il tressaille de joie, car ça lui paraît être un excellent prétexte pour retourner à ses anciens plaisirs. Et cependant, il a beau se défendre, sa raison capitule. Et de toute son âme, il finit par reconnaître la vérité de la religion catholique. Pourquoi donc résiste-t-il encore? Eh bien, parce que son orgueil se rebelle, cet orgueil qui est incompatible avec les renoncements puis les soumissions qu'exige la religion catholique. Parce que le sentiment qu'il a appelé le château fort de l'âme fait opposition, quoi. Et Johannes Jorgensen, le grand écrivain danois, ne veut pas croire. Et c'est à cause de cette volonté qu'il s'obstine à suggérer les arguments à son incroyance. Il écrit « Impossible désormais de recourir aux grands mots et de parler encore de la lutte au nom de la lumière et de la justice contre des dogmes de mensonges et d'oppression. Tout cela, ce n'était que des mots, des prétextes conscients ou d'inconscientes excuses derrière lesquelles je m'étais caché afin de ne pas regarder en face la réalité éternelle. Et pourtant, ces idées ne m'apparaissait encore que dans la clarté toute théorique, elle ne pouvait toujours pas se changer pour moi en un acte pratique de foi. Alors Vercade, le moine bénédictin, lui écrit de Beuron, grande abbaye bénédictine, comme je vous ai dit, « Élevez votre cœur et faites votre sacrifice. Dites, mon Dieu, je crois en vous, et je crois que votre Sainte Église est le rempart de la vérité et le chemin du salut. Et vous verrez que ce n'est pas un monstre dans les bras duquel vous vous jetterez, mais une mère qui vous serrera contre son cœur. » C'est trop beau sur l'Église, je le répète. Élevez votre cœur et faites votre sacrifice. Dites, mon Dieu, je crois en vous et je crois que votre Sainte Église est le rempart de la vérité et le chemin du salut. Et vous verrez que ce n'est pas un monstre dans les bras duquel vous vous jetterez, mais une mère qui vous serrera contre son cœur. Alors il est demeuré sourd à cet appel et son panthéisme renaît. L'inquiétude le serre toujours à la gorge. Et alors Jorgensen a l'impression d'une éternelle course en cercle. Mais il fait sa prière du soir et il dit « Seigneur, Seigneur, je suis hors d'état de m'aider moi-même. Ma raison et ma conscience ne sont rien. Seigneur, le mal restera mon lot si tu ne me viens pas à mon aide. » Sa prière est exaucée et il commence enfin à sentir la douceur de la soumission. Il écrit aux dernières pages de son journal d'Assise. Et c'est très important ce qui suit. « Ce qui m'empêche de devenir catholique, c'est l'amour de ma propre personne, de mon passé, de mes convictions d'autrefois, que, à l'encontre de ce que l'expérience m'a prouvé, je continue à regarder comme bienfaisante pour l'humanité, pour moi en particulier. C'est le mirage de l'égoïsme. Or, l'égoïsme, il n'est pas de plus forte leçon pour en triompher que celle que l'on peut recevoir en se mettant à l'école de Saint-François d'Assise. Hein? C'est connu depuis des siècles. Et depuis 3 mois, Jorgensen s'est imprégné de l'esprit d'amour de Saint-François, le poverello, le pauvre, qui peu à peu a détruit en lui l'amour de sa propre personne. Il s'est aussi imprégné de son esprit d'humilité. Il s'est inspiré de Saint-François. Jorgensen est enfin reçu dans l'Église catholique le 16 février 1896, après avoir fait la veille une confession générale. Dans son journal, il écrit à cette date un sentiment de joie, plénitude de foi, longue promenade au soleil. Il avoue plus tard dans son autobiographie, ce fut ma première expérience de la vérité de cette promesse évangélique, donnez et vous recevrez. Jorgensen, c'est le poète qui a conquis vers 1887 une des premières places dans la jeune littérature danoise. Mais c'est aussi la géographe, l'auteur de Vitsin, qui va imposer son nom à la littérature mondiale du XXe siècle. Ou lire la très belle vie de Saint-François d'Assise, Saint-François d'Assise de Jorgensen, publié chez Taillandier. Taillandier, c'est une vie illustrée énorme de 500 pages que je vous recommande fortement. On peut dire que depuis sa conversion, il n'a guère vécu qu'avec les saints. Et la trilogie que forment ses livres, Saint-François d'Assise que je viens de mentionner, Les pèlerinages franciscains et Le livre de la route, trilogie à laquelle il ajoute un peu plus tard La montée de l'Alverne, c'est superbe ça, lui ont valu parmi les lecteurs de langue française une célébrité qui ne s'est jamais démentie jusqu'à aujourd'hui, à laquelle la Sainte Catherine de Sienne a donné un nouvel éclat, car il a écrit aussi cette vie. Alors, faut bien que je me borne à indiquer très brièvement quelle me paraît être la principale originalité de Jorgensen comme hagiographe. Elle est caractérisée par une étroite union de la science et de la poésie. C'est pas de la petite hagiographie, c'est pas des petites vitses. Chacun sait quelle est l'austère discipline à laquelle un hagiographe doit aujourd'hui se plier. Et qu'avant d'écrire la vie de son héros, il lui faut se livrer d'abord à une étude scrupuleuse des sources et en faire une critique rigoureuse. La vie de Charles de Foucault par Marguerite Question du Perron, ça lui avait pris, m'a-t-elle dit à Paris lors d'un dîner, 10 ans. 10 ans de recherche. Une mère de famille de 6 enfants, c'est formidable. Johannes Jorgensen, que ses études antérieures n'ont peut-être qu'assez imparfaitement préparé à ce travail indispensable, et il l'a fait quand même, le travail. Et pour prendre comme exemple son Saint-François d'Assise, sans doute de nouveaux manuscrits ont-ils été découverts depuis, là, sans doute le point de vue a-t-il parfois un peu changé, il changera encore sur certaines questions qui ont été bien discutées, mais tous les spécialistes de la vie, des vies de Saint-François ont rendu à l'ampleur de son information par la clarté, par la sérénité de ses discussions, à la solidité de des conclusions qu'il a adoptées, ils lui ont rendu un hommage unanime et bien mérité. Et c'est toujours en suivant fidèlement les sources qu'il a conduit son récit. Et c'est la note de fantaisie personnelle qui a fait le succès de cette vie de Saint-François et des autres vies qu'il a écrites. Car Johannes Jorgensen a mis beaucoup de lui-même dans les figures de saints qu'il nous a tracées. Il les a auréolées de poésie. Et son merveilleux talent d'artiste, la finesse, comme je vous ai lu des textes tout à l'heure, c'est plein de finesse, sa sensibilité, lui a permis de ne pas altérer les traits des saints. Il a eu de la nature un sentiment très vif aussi, qui l'a parfois conduit, comme on l'a vu, à un panthéisme, d'accord, plus ou moins précis, mais devenu catholique, là, ce sentiment, cette admiration pour la nature, ça n'a pas été perdu chez lui. Ça n'a pas perdu la vigueur, l'originalité qu'il a toujours eue. Il est peu de descriptions de paysages qui soient plus évocatrices que celles que l'on peut lire dans les pèlerinages franciscains. Aussi, il a toujours pensé que pour écrire la vie d'un saint, Il y avait une autre source à consulter que les sources purement livresques, et cette source, c'est le pays, oui, le pays dans lequel le saint a vécu, l'atmosphère dont il s'est imprégné. Et il a voulu remettre, dans la mesure où cela est possible, après plusieurs siècles, ses pas, là, dans les pas de ses héros. Il a voulu visiter en pèlerin les lieux où ils ont vécu et qu'ils ont sanctifié de leur présence. Et l'une des plus aimables qualités de ce grand écrivain danois, c'est son extraordinaire simplicité, une grande simplicité toute franciscaine. Jorgensen pourrait répéter lui aussi avec Saint François, « Salut aux sagesses, ô reine, que le Seigneur te garde, toi et ta sœur, la sainte et pure simplicité. » Alors, à l'imitation de Saint François, dont il a dit que son principal objet était toujours d'instruire les hommes par son exemple, plus que par ses paroles. Ce n'est pas seulement par la plume que le grand écrivain danois voulait devenir un apôtre, c'est encore par l'exemple de sa vie, et sincère dans sa recherche si longue et si passionnée, si mouvementée, là, de la vérité, il est demeuré sincère après sa conversion. Il a mis sa foi en pratique, avec toute l'ardeur de son âme, et cette foi catholique ne lui a pas été ingrate. Elle lui a découvert une nouvelle source de beauté, où il a puisé à large trait. C'était un poète révolutionnaire et athée au début de sa vie. Il était célèbre au Danemark, mais il est devenu dans le monde entier comme disciple de Saint François d'Assise. Il dit « Je suis revenu à Assise pour y mourir ». Il a dit ça lors du jubilé de ses 80 ans dont je vous ai parlé au début de cette émission. Et on raconte même qu'il avait acheté une place au cimetière, mais des raisons de famille et sans doute l'appel du pays natal, le Danemark, en ont disposé autrement. Il est retourné au Danemark, mais la ville de Saint-François est restée toujours sa seconde patrie, sa patrie spirituelle. C'est cependant pas Assise que, selon son vœu, Jorgensen est mort. Mais le 29 mai 1956, il est mort à l'hôpital danois de Svendborg, comme un saint. Je vous recommande ses livres. Vous ne vous ennuierez pas à lire ce qu'a écrit ce grand converti, baptisé luthérien, mais qui était plutôt un athée, un anarchiste, et qui s'est converti au catholicisme et qui est devenu un des plus grands écrivains catholiques de ce siècle, Johannes Jorgensen, J-O-E-R-G-E-N-S-E-N.